Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Dominika. Bonjour.
Bonjour.
Alors Dominika, vous vivez à Die ou dans le Diwa ?
Non, j'habite à Cré. En
fait. Vous habitez à Cré. Et vous êtes là pour nous parler d'une exposition de photographie qui a déjà commencé depuis le 21 octobre et ce jusqu'au 5 novembre à la galerie 10 rue de l'Armellerie à Die, c'est-à-dire au stop, au milieu de la rue de l'Armellerie. Et l'exposition s'appelle « Perles de conscience ». Alors la thématique, quand on pénètre dans cette exposition, c'est le portrait. Et dans ces portraits, quelle est la quête qui vous pousse à les photographier ?
À photographier ces personnes en particulier, la quête de l'essentiel, je dirais. C'est-à-dire la quête, la question qui suis-je ? Ces personnes que j'ai photographiées peuvent m'indiquer la voie à suivre pour réaliser qui je suis essentiellement. Au-delà de l'apparence, au-delà du mental. Et j'ai toujours été passionnée par ça, donc j'ai été amenée à rencontrer des gens qui... La plupart étaient auteurs d'ailleurs, enfin sont auteurs de livres sur ce qu'on appelle la spiritualité ou la connaissance de soi en fait.
Vous êtes en quête de spiritualité au travers de ces visages donc ?
Je dirais surtout en quête d'essentiel et puis de bienveillance. Ce qui m'a attiré vers ces gens-là, c'est leur bienveillance essentielle, je dirais. Hein, surtout, toujours des visages en paix et bienveillants. Pas de méchanceté, pas de mesquinerie, pas de... Ce que... Étant très très sensible, j'ai très vite fait en sorte d'être entourée par des gens bienveillants. Voilà.
Alors, cette bienveillance dont vous êtes sensible, vous avez su la retrouver au travers de ces personnes que vous avez photographiées. Mais par quel cheminement en êtes-vous arrivé à les croiser ?
En fait, c'est une longue histoire. Je suis issu d'un milieu bourgeois. J'ai grandi pas loin de Paris. J'étais éduqué dans une école de sœurs, mais j'ai eu la chance quand même... par ma mère qui était interprète, d'avoir voyagé très jeune. Ma mère m'envoyait tous les étés depuis l'âge de 9 ans, en Angleterre, en Irlande, en Espagne, au Mexique, etc., pour apprendre la langue. Donc déjà, j'étais habituée à partir loin de ma famille et à rencontrer des gens complètement, enfin des étrangers en fait, et à parler 3 langues. Et plus tard, j'ai été amenée, je ne savais pas très bien quoi faire comme étude, et j'ai été amenée en fait à aller faire du droit à Londres parce que j'étais bilingue et puis parce que bon, l'opportunité s'est faite d'aller étudier dans une université prestigieuse à Londres et en même temps de faire une maîtrise de droit français. Donc du coup j'ai continué dans cette voie-là. Ce qui m'a amenée plus tard, ou plutôt je dirais que après mes études en France, j'ai passé la maîtrise et un DEA de droit des affaires et le barreau de Paris. J'ai eu envie de repartir à l'étranger, j'ai eu la possibilité à travers des avocats de trouver un travail à Boston, aux États-Unis. Donc je suis partie aux États-Unis et je suis restée finalement 10 ans. Parce qu'une fois aux États-Unis, j'ai rencontré à Boston un peintre. En fait, je me suis très vite mis, comme j'étais loin de ma famille, j'étais toute seule. J'ai pu vraiment commencer à me chercher moi-même. Et très vite, j'ai pris des cours de dessin. Des cours de danse, des cours de voile. Enfin, parce que, en fait, j'avais pas beaucoup de travail à faire dans le cabinet d'avocat où j'étais engagée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un peintre noir américain qui m'a ouvert beaucoup à la peinture. Et puis aussi à l'aïkido, d'ailleurs. J'ai beaucoup pratiqué l'aïkido. Il était professeur d'aïkido. Et plus tard, il a fallu que je quitte Boston parce que j'avais pas le barreau du Massachusetts. Mais par contre, j'avais passé le barreau de New York. Et comme je ne voulais pas rentrer en Europe, retourner à la vieille vie, je suis allée à New York. Et à New York, j'ai continué le dessin. Et à un moment donné, je voyageais aussi pas mal. Et puis, je prenais des photos. Et les gens disaient que mes photos de voyage étaient très belles. Du coup, je me suis inscrite à un cours de photographie noir et blanc à New York, à la Parsons University. Et j'en ai aussi profité. Donc, on apprenait surtout à développer les photos, en fait. Et comme j'étais en tant qu'avocate, je défendais une jeune haïtienne qui était détenue à New York. Quand j'ai réussi à la faire libérer, la famille qui l'accueillait m'a dit comme ça, sur le ton de la rigolade, pourquoi vous n'allez pas à Haïti ? Et du coup, je suis allée à Haïti et j'ai emmené 11 pellicules noir et blanc. C'était la première fois que j'utilisais le noir et blanc. Et quand je suis revenue quand on a développé les planches contact, mon professeur de photographie m'a dit que j'avais vraiment un grand don surtout pour le portrait et qu'il fallait que j'achète un Leica. Et c'est à partir de là déjà que je me suis mise à photographier des gens. Et je vais parler de l'aïkido parce qu'à New York, je faisais de l'aïkido tous les jours. Et c'est en faisant de l'aïkido que j'ai rencontré un homme qui était disciple d'un sage indien. Et qui m'a mis sur la voie donc de entre guillemets la sagesse. Il m'a donné un livre de Krishnamurti qui s'appelle Freedom from the Known. Je crois que c'est en français c'est Libéré du connu. Voilà. Et puis d'autres maîtres indiens. Et déjà enfant, j'avais toujours voulu aller en Inde. J'avais été attirée par. J'avais vu des films indiens à la télévision et j'avais toujours voulu aller en Inde. Donc plus tard, je suis partie en Inde et ça a été une révélation pour moi. Et c'est aussi à travers les portraits que j'ai faits, en passant, ouais, avant d'aller en Inde, je passais par Paris et là je suis tombée par hasard sur dans le dojo d'aïkido où j'allais pratiquer à Paris, je suis tombée sur une conférence sur l'Inde spirituelle aujourd'hui et j'ai rencontré un disciple d'Arnaud Desjardins qui est quelqu'un d'assez connu dans la spiritualité. Il était aussi connu parce qu'il il a fait des films à la télévision dans les années 60. Il a fait des documentaires sur toute la spiritualité, les Tibétains, les maîtres soufis en Afghanistan avant qu'ils soient assassinés, le bouddhisme tibétain, japonais, et puis bien sûr les ashrams indiens puisque son maître était en Inde. Et j'avais donc rencontré par hasard son disciple lors de ses conférences. Du coup, plus tard, quand je suis rentrée à New York, je lui ai envoyé des portraits que j'avais faits. Et il m'a répondu. Et il m'a vraiment encouragée dans la photo. Et une fois que j'ai fait ce voyage en Inde, et puis que j'ai eu pas mal de contacts à travers ce voyage et à Paris, j'ai voulu revenir en France, parce qu'avant, je ne revenais pas. Et du coup, je suis revenue assez régulièrement et je suis retournée régulièrement en Inde. Et c'est par Arnaud Desjardins que l'idée de ce livre est venue. Il m'a dit « Pourquoi vous ne feriez pas un livre de portraits ?» Voilà. Et donc c'est ça, l'idée du livre, c'était en 1995. Et la majorité des portraits, je les ai faits entre 1995 et 2000. Voilà. Mais j'ai mis du temps à publier le livre. Après, le livre est paru en 2013. Et les photos qui sont exposées sont des portraits qui ont été publiés dans le livre. Il y en a 39 exposés, il y en a 52 dans le livre. Mais ce n'est pas tous les portraits de tous les enseignants que j'ai rencontrés, parce que j'en ai rencontré plus que ça, mais certains ne voulaient pas que je les photographie. Voilà.
Comment s'opéraient les prises de vue avec ces personnalités ? Est-ce que c'était dans l'instantané ou alors c'était dans une élaboration de composition ?
Oui, quand même, je pensais un peu à la composition, mais c'était souvent très simple dans la nature. Devant un mur ou devant des feuilles, bien sûr en faisant très attention à la lumière, plutôt le soir. Et en fait, j'ai vraiment le don de la photographie m'a été donné, donc pour moi c'est assez. Je réfléchis pas trop, hein, ça se fait. Et d'ailleurs, ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai pas vraiment fait d'école de photo. Je me dis, est-ce que je vais réussir ? Surtout qu'avec le Leica, on voit pas le résultat tout de suite. Hein, c'est pas comme le numérique. Donc il faut attendre d'avoir développé le rouleau pour voir le résultat.
D'ailleurs, en utilisant le Leica, quelle sensibilité de film vous utilisez pour ces portraits ?
C'était du 400 ASA.
400 ASA.
C'est un film d'ailleurs qui n'existe plus maintenant, qui est fabriqué en Chine et qui n'est plus de la même qualité. Et je tirais parfois, je poussais à 800. Par exemple, à 800 Asa, la photo du Dalai Lama, elle a été faite à l'intérieur sans qu'il le sache, parce que j'étais dans un groupe. Et donc là, j'avais poussé le Asa à 800.
Vous parliez de sensibilité, justement, c'est pour ça que je reviens avec la sensibilité du film aussi. Moi-même, ayant pratiqué la photographie avec des films 25 Asa, ouais, c'est-à-dire une sensibilité très légère, quoi, je dirais, et qui nécessitait une exposition du sujet beaucoup plus longue. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction entre la sensibilité vôtre, qui est hypersensible, et celle de la pellicule qui absorbe très rapidement la lumière?
Pour moi, non. On m'avait toujours dit que quand il y a peu de lumière, ce qui était le cas pour mes portraits, il fallait utiliser au moins 400 ASA. Et que par contre, pour le paysage, on pouvait à ce moment-là utiliser du 100 ou du 200. Je crois que je n'ai jamais utilisé du 25. Donc c'est pour moi, le 100 et le 200, le 25, 100, 200, c'était surtout pour le paysage, quoi, pour la couleur.
Voilà, mais j'utilisais, c'était des films de 120, les bobines de 120, vous voyez, c'est...
Ah oui.
Voilà, c'était des grosses bobines pour 6-6.
D'accord. Ouais.
Voilà. Et donc, de cette expérience de portrait, est-ce que vous trouvez qu'il y a une lumière un petit peu uniforme, une uniformité ou alors une ambiance que vous retrouvez à chaque fois avec ces personnes?
Oui, c'est possible. En fait, je faisais en sorte que la lumière ne soit pas trop forte, bien sûr, parce que ce qui est important pour moi dans un portrait, c'est le regard. Et il faut que la lumière soit juste ce qu'il faut pour qu'on voit très bien le regard, mais que la lumière ne fasse pas mal aux yeux, quoi. Donc, parce que sinon, du coup, on voit plus du tout le regard. Donc peut-être qu'ils ont ça en commun, c'est que à chaque fois, ça a été pris soit dans une pièce, quand il faisait trop beau dehors, c'était dans une pièce avec la lumière de la fenêtre, soit dehors au coucher de soleil ou alors un temps gris, quoi.
Oui, on peut voir que ce sont des lumières adoucies. Hein,
ouais,
pour ces portraits, il n'y a pas d'ombre qui tranche le visage. Ouais. Et par rapport à cette exposition, c'est en parallèle de la publication d'un ouvrage, donc, qui est possible de trouver à Die, par exemple.
Die, il est en dépôt. Il y en a un en dépôt à la librairie Mosaïque. Mais sinon, il y en a surtout beaucoup à la galerie où j'expose pour l'instant. Et je crois qu'il est question que la médiathèque l'achète, ce livre. Donc voilà. Il en a été question, en tout cas, je crois qu'ils vont le faire. Il faut qu'ils aillent à la librairie pour le faire. Mais sinon, moi, j'en vends. Dès que je passe une commande, mon éditeur me l'envoie. Il est à Toulouse. Et il n'y a aucun problème.
Je vois, vous proposez dans cet ouvrage des photographies, mais aussi des textes, un choix de textes, des textes qui émanent de vous, ou alors une sélection de vos lectures?
Non, à côté de chaque portrait, il y a un texte assez court, qui est en fait une citation que j'ai empruntée dans les textes que j'ai lus de la personne photographiée. Donc ce sont des textes relativement courts et qui donnent accès à justement cette connaissance pour moi, enfin, qui essaye en tout cas de pointer vers une réponse à la question « Qui suis-je ?» Voilà.
Et cette question, est-ce que vous-même avez-vous trouvé la réponse?
Disons que je ne cherche plus. Je crois que c'est un mystère, parce que qui suis-je vraiment est justement au-delà du connu. Ce n'est pas le corps, puisque le corps va mourir, et ce n'est pas le mental, puisque le mental fluctue. Donc ce que je suis vraiment, c'est ce à partir de quoi cela parle. C'est avant même la pensée « je ». Donc c'est au-delà du concept. Et on peut vraiment que le ressentir. Et on ne peut pas vraiment en parler, en fait. On peut le ressentir, mais c'est avant la pensée. Voilà. Et on a tous cela en commun. C'est à partir pour ça qu'on parle quelque part de l'amour avec un grand A. C'est parce que on a tous cela en commun. Je veux dire, c'est avant la pensée. Mais dès qu'on commence à penser, forcément, là, c'est la guerre.
Les personnes que vous avez photographiées, en majorité, sont plutôt sur le continent asiatique. Je parle en majorité, hein, parce qu'il y a des auteurs dont vous citiez quelques noms tout à l'heure, hein, il me semble. Karl Renz, non
y a pas, Non, Karl Renz, j'en ai pas parlé. Mais Karl Renz, il voyage beaucoup, il est allemand. Je l'ai rencontré à Bombay, il y a 20 ans. Mais il voyage pas mal, mais il est surtout à Berlin, en fait, c'est un allemand. En fait, j'ai pas voyagé en Asie, j'ai voyagé qu'en Inde. Hein. Je suis allée qu'en Inde. Et je retourne toujours à un même endroit maintenant en Inde. J'ai fait le tour de l'Inde pour rencontrer pas mal de maîtres indiens en Inde. Mais maintenant, quand j'y vais, chaque année, je retourne toujours au pied d'une montagne qui s'appelle Arunachala, dans le sud de l'Inde, entre Bangalore et Madras. Et autour de cette montagne, j'ai photographié quelques enseignants. Peut-être 6-7 de livres, je crois. Et sinon, j'ai aussi rencontré des enseignants en France, en Belgique, à Londres, aux États-Unis. Et je crois que c'est tout.
Mais cette quête, en allant en Inde, c'est parce que c'est une chose que c'est le seul lieu pour vous où vous pourriez continuer vos recherches.
En fait, je continue. Donc, comme je vous disais, je ne cherche plus. Mais donc maintenant, ça m'est difficile de voyager pour des raisons de santé. Et donc, je continue à aller en Inde parce que j'y vais depuis 20 ans, donc je sais où je vais. Et puis parce que aussi j'ai la sensation de... Enfin, j'ai déjà essayé de passer des vacances ailleurs, d'aller au Maroc. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je viens là? J'ai la sensation d'avoir vraiment trouvé le lieu essentiel au pied de cette montagne. Et j'y retourne constamment pour ça. Que dire de plus? Mais il y a d'autres lieux. Hein. Il y a des gens qui vont à Rishikesh dans le nord de l'Inde. Moi, j'y suis allée en 2011. J'ai pas envie d'y retourner, quoi. C'est... ce même lieu. C'est cette montagne, elle est située près du temple d'une ville qui s'appelle Tiruvannamalai, qui grossit de plus en plus parce qu'en fait ce lieu devient de plus en plus connu. Et du fait de cette montagne et du fait de tous les chercheurs de connaissances qui y vont, cette montagne, je pourrais quand même dire qu'elle est connue du fait d'un sage qui est mort en 1950 et qui s'appelle Ramana Maharshi et qui enseignait surtout par son silence. Voilà.
Par rapport à votre travail, donc, vous proposez cette exposition de portraits d'hommes et de femmes, mais vous faites aussi des portraits d'enfants.
Oui, j'ai fait beaucoup de portraits d'enfants, j'en fais toujours, mais disons que maintenant, comme il y a tellement de gens qui font des photos, qu'il y a moins de demandes quand on est photographe argentique. Mais j'ai fait beaucoup de portraits d'enfants. C'est comme les sages, comme les enfants, sont faciles à prendre parce qu'ils ne posent pas, ils sont naturels.
Mais vous êtes professionnel de la photographie et vous en vivez ?
Non, j'en vis pas actuellement.
Non, c'est plus une passion.
J'ai été formée comme avocate et j'ai comme vocation la photographie. Donc, mais j'ai, à part ces 3 mois d'études de la photo, j'ai peu étudié. Donc, depuis 2000, je m'occupe de. Enfin, je suis maman solo d'un enfant qui a aujourd'hui 17 ans. Et j'ai eu. Enfin, ça m'a pris énormément de temps, donc j'ai fait moins de photographie. J'ai fait surtout depuis la naissance de mon fils. J'ai continué quand même la photo et quand je fais des portraits, je l'ai réussi. Mais j'ai surtout fait des photos de paysages parce qu'on est dans une très belle région qui donne envie de photographier aussi. Voilà.
Et c'est là qu'arrive la couleur.
Oui, voilà. Mais j'en ai fait déjà avant, hein, de la couleur.
Oui.
Mais tout le monde me dit que c'est quand même mes portraits qui sont les plus frappants, quoi. Parce que je vois beaucoup de gens qui font des portraits de photographie et de paysages qui sont très beaux. Alors que des portraits, j'en vois moins, quoi, je dirais. Mais j'ai aucun mérite, hein. Franchement, c'est un don qui m'a été donné. Quoi. Donc,
La musique, autour de ça, vous la situez comment ?
La musique est essentielle aussi. D'ailleurs, le père de mon fils est un joueur de sitar qui vient de Bénarès, la ville, une ville sacrée aussi. Et j'ai fait beaucoup de piano, j'ai pratiqué le chant aussi. Et puis mon fils joue de la guitare depuis ses 5 ans. Donc la musique, c'est essentiel pour nourrir l'âme.
Et ça calme aussi, non ?
Oui, complètement. D'ailleurs, après le repas, je me repose et j'écoute toujours les moines tibétains.
D'ailleurs, je voulais savoir, vous pourriez peut-être nous proposer à l'écoute un extrait ou un morceau de musique qui vous dirait ?
Ben, quand je suis passée à la radio à Creil, j'avais proposé les tambours des Indiens Lakota, je crois, mais je l'avais apporté là. Comme j'ai rien prévu, je sais pas ce que je peux choisir. Ou un morceau de musique, de musique indienne, ou bien de la guitare. J'aime beaucoup la musique où il y a un seul instrument aussi, que la guitare ou que les drums. Voilà. Sinon, j'aime aussi beaucoup la musique de Leonard Cohen.
Avec un titre en particulier
Pourquoi pas, oui, je peux vous donner un. C'est Dance to the End of Love.
En quoi ce titre vous interpelle ou vous émeut?
Oh bah, je trouve que la musique est vraiment très très belle. Et j'ai toujours beaucoup aimé la poésie de Leonard Cohen. D'ailleurs, il se trouve que il a rencontré le premier maître que j'ai photographié en 1992. Il est allé le rencontrer parce qu'il suivait. Il était assez solitaire, Leonard Cohen, apparemment assez dépressif, d'après ce qu'on m'a dit. Et il avait suivi un enseignement chez des bouddhistes zen. Et il était allé rencontrer Ramesh Bhasekar, qui est donc le premier maître que j'ai rencontré. Et il était allé le voir à Bombay. Voilà. Et j'aime beaucoup le personnage et la musique et ses chansons, voilà. Et oui, j'aime beaucoup. C'est ma chanson préférée de lui, c'est Dance to the End of Love.
Panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
La 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 la.
with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
L'exposition s'appelle, ou du moins l'ouvrage aussi, s'appelle « Perles de conscience ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce titre ?
Ben, conscience, parce qu'en fait, la source, au-delà du mental, au-delà des apparences, au-delà du corps, on peut l'appeler aussi la conscience, hein, la conscience immanente. Et c'est comme ça que certains maîtres parlent de la source, ou de ce que certains appellent Dieu. Mais Dieu, en fait, ça a quand même une connotation de concept, comme le Dieu le Père, avec un visage d'homme, alors que la conscience, c'est vraiment au-delà, justement, au-delà du concept, au-delà du connu. Et c'est aussi bien lui que elle, quoi. Ça peut être aussi bien Shiva que Shakti et le Père. Certains maîtres parlent du Père pour parler de la source, et d'autres parlent de la mère divine. Donc... voilà. Et Perle, c'est mon enseignant de yoga, Eric Barré, qui a eu l'idée de ce titre, en fait. Parce que Perle de conscience, dans le sens où ce sont des êtres qui ont cherché, quelque part qui ont trouvé, ou certains d'ailleurs ne cherchaient même pas, mais c'est la conscience qui est venue les trouver. Et ils nous donne des perles de leur enseignement.
Voilà. Vous vivez à Cré, c'est ça ? Mmh. Et vous pratiquez de la photographie toujours autour de Cré ?
Je fais moins de photographie parce que je suis passionnée par le yoga, en fait. Donc je fais beaucoup, beaucoup d'assises, et je suis moins dans la création matérielle, parce que prendre une photo, ça veut dire ensuite la tirer, la faire connaître, l'exposer. J'en ai déjà plein mon ordinateur, parce que maintenant, bon, je fais aussi beaucoup de numérique, forcément. Et donc, j'en fais moins, mais je veux dire, c'est toujours, j'ai toujours l'œil, j'ai toujours envie de faire... les quelques photos que je fais, quand je les envoie à des amis, en particulier une amie qui m'a aidée d'ailleurs beaucoup quand j'avais pas beaucoup d'argent, puisque j'avais renoncé aux droits pour la photo, m'a toujours dit que mes photos la touchaient beaucoup, et aussi bien mes photos de paysage que mes photos de portraits. Donc oui, je veux dire, je peux pas abandonner quelque chose qui est en moi, de toute façon. Mais j'ai tendance à faire beaucoup de méditation et de yoga maintenant, quand même.
Vous parliez tout à l'heure aussi d'aïkido. Pour vous, c'est un art qui vous apaise, qui vous tranquillise aussi ?
L'aïkido, j'en ai fait beaucoup. J'ai arrêté en 2009, après avoir passé le brevet fédéral et deuxième Dan. En fait, je me suis fait... J'ai passé le deuxième Dan sans l'autorisation de l'autorité. Et ça a été mal vu. Du coup, j'ai été évincée de l'enseignement de l'aïkido à Cré. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais je l'ai en moi. Je veux dire, j'en ai tellement fait. J'ai fait des heures et des heures d'aïkido quand j'étais à New York. Pendant 5 ans, j'en ai fait 10 heures par semaine. Et à New York, il n'y avait pas de vacances. Je veux dire, il y a que le dojo d'aïkido de New York était fermé que le jour de la mort de son créateur, Osensei. Et donc, j'en faisais vraiment tous les jours. Et j'en ai fait énormément. Et vers la fin, j'avais du mal à chuter parce que j'avais des problèmes de genoux. Donc maintenant, je continue parfois à faire des échauffements d'aïkido et puis des mouvements d'aïkido moi-même. J'enseigne à Cré depuis 14 ans un cours de ce que j'appelais avant remise en forme et Tai Chi Chuan, parce que j'ai aussi suivi l'enseignement du Tai Chi Chuan à New York. Et puis maintenant, je l'appelle yoga de la non-dualité et Tai Chi Chuan, en fait. Voilà. J'enseigne 2 fois par semaine.
Tous ces renseignements-là, vous avez un site internet, hein, d'ailleurs, pour les photographies, mais vous avez, je crois, des liens que l'on peut trouver sur ce site qui vous amène justement à ce que vous pratiquez. D'ailleurs, vous pouvez nous donner l'adresse de ce site internet.
En fait, il suffit de taper la Dominica H, hein, donc mon prénom, Dominica H attaché, .free.fr, et à ce moment-là, on tombe sur mon site.
Tous ces maîtres que vous avez rencontrés vous ont touché, je suppose.
Certains, oui. Enfin, il y en a certains que j'ai connus mieux que d'autres.
Oui, d'autres moins, peut-être.
Ben, il y a certains que j'ai connus mieux que d'autres. D'autres que j'ai trouvés un peu cinglants, parce que parfois le maître est un peu dur, quoi.
Vous préférez peut-être un maître qui soit silencieux, comme vous le citiez tout à l'heure ?
Bah, en fait, j'aime beaucoup la montagne Arunachala, parce que c'est un maître silencieux. Et l'énergie autour fait que le mental a tendance à se taire et à mettre en lumière ce que nous ne sommes pas pour comprendre ce que nous sommes vraiment. En fait.
Est-ce que le silence n'amène pas des questionnements aussi ?
Bah c'est, oui, à partir du
quand
moment
on vous renvoie un silence à une demande, est-ce que ça vous questionne?
Bah soit ça questionne si le mental repart, soit au contraire il se passe plus rien, quoi. Le mental est vide et à ce moment-là c'est la paix. Et ça c'est le vrai silence dont on parle, en fait, je dirais.
Cette exposition donc qui se termine le 5 novembre a dit est-ce qu'elle sera visible ailleurs dans le coin?
Je ne sais pas encore.
Vous ne savez pas? Non, sur Cré, par exemple, vous n'exposez pas en général?
J'ai exposé au mois de mai pendant 15 jours à Chapelle des Cordeliers. Mais je pourrais refaire une exposition à Cré, pourquoi pas? Mais pour l'instant, rien n'est prévu. Mais sinon, on peut toujours me contacter pour venir voir les portraits chez moi. Peut-être que je les exposerai dans ma salle de yoga, je ne sais pas.
Voilà, et puis si... Donc, vous pouvez être jointe soit par mail, hein, donc...
Oui, il y a mes coordonnées sur le site.
Aussi, de toute manière, sinon, si vous allez sur le site internet. La musique, pour vous, prend quelle place? À part l'écouter, vous la pratiquez toujours?
Non, je ne la pratique plus. Non, j'ai arrêté le piano, j'avais à un moment donné commencé la guitare. Mais maintenant je suis de plus en plus attirée vraiment par le silence. J'ai pas tellement de temps pour pratiquer le yoga, donc c'est surtout ça que je fais. Voilà.
Est-ce que le silence, vous le retrouvez justement là où vous vivez?
J'habite dans un endroit assez silencieux, qui est plutôt dans le centre de Cré, mais loin de la circulation. Mais souvent, quand il y a du bruit tout autour, je mets le bruit de la mer. J'ai un CD avec le bruit de la mer. Parce que c'est souvent, quand on écoute un CD, j'aime quelques plages du CD, mais il y en a que j'aime moins. Et que écouter toujours les mêmes chansons, c'est difficile. Donc il faut s'en occuper. Alors que d'écouter la mer ou d'écouter le bruit d'une chute d'eau qui tombe, c'est plus facile. Ou même le chant des moines zen, d'ailleurs. Voilà. J'aime beaucoup la musique que fait la nature.
Le chant tibétain, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler avec cette espèce de voix qui vient du profond de soi?
Oui, c'est ce que j'écoute quand je m'allonge après le repas, donc je vois très bien.
Et qui sont accompagnés parfois de corps aussi, ces longs corps tibétains. Est-ce que c'est, comment dire, une espèce d'estrade pour le silence à venir?
Je saurais pas vraiment en parler parce que j'ai pas le don de, j'ai le don de l'image, j'ai le don de la photo, mais j'ai pas vraiment le don de la parole pour ce qui est de parler de choses qui m'émeuvent ou qui me touchent ou qui m'amènent au silence. Mais je peux dire que cette musique, je pense que c'est parce que ces moines sont presque en méditation, ils sont sans pensée. Et donc quand ils chantent, c'est très profond, ça vient même, je dirais, du cœur, quoi. Du coup, ça amène aussi au silence et à la tranquillité, je dirais.
Et puis, peut-être avant d'aller vers cette quête spirituelle, vous l'avez commencé directement auprès du bouddhisme ou de toutes ces philosophies de l'Inde, par exemple. Est-ce que vous l'avez abordé aussi au niveau de la philosophie occidentale? Est-ce que vous avez trouvé des auteurs ou des philosophes occidentaux qui vous ont ému?
D'abord, ma première approche de la spiritualité, ça a quand même été quand j'étais enfant, puisque j'allais à la messe tous les dimanches avec mon père. Je suis allée 10 ans dans une école religieuse. Mais c'est justement le fait qu'on nous fasse aller à la messe et qu'on nous fasse faire des choses automatiquement sans se questionner qui a fait qu'à 15 ans, j'ai dit je veux plus aller à la messe, c'est fini, et que je suis devenue quelque part athée. Et c'est à travers l'aïkido, à travers la rencontre avec cette personne qui avait rencontré un maître indien, que je me suis à nouveau intéressée à la transcendance. Et alors, les philosophes occidentaux ont tendance, pour beaucoup, à être beaucoup dans la pensée, dans le concept, à analyser beaucoup. Hein. Je pense donc je suis. Alors que pour moi, la véritable sagesse, elle se situe au-delà de la pensée. Et c'est ce que tous les maîtres d'ailleurs indiens expliquent. Alors bien sûr, il est important quand on est sur un chemin de ne pas laisser de côté la psychologie, parce qu'on a, beaucoup de blessures qu'il faut voir et qu'il faut guérir avant de pouvoir espérer trouver la paix en recherchant le silence à la source du soi. Quoi. Par contre, il y a quand même pas mal d'Occidentaux qui ont parlé de ce sujet, mais qui étaient eux-mêmes influencés par des philosophes orientaux, comme par exemple Douglas Harding. Il est anglais, mais il avait beaucoup lu des sages d'Asie. Et puis en plus, il a eu une expérience en marchant dans l'Himalaya. Tout d'un coup, il a perdu sa tête, comme il a dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a réalisé qu'il avait, comme s'il perd sa tête et qu'il est devenu les montagnes qu'il voyait. Hein. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de l'éveil, c'est-à-dire l'expérience de la réalisation du soi, l'expérience de la réalisation de ce que je suis au-delà donc du corps et du mental. Et la majorité des gens qui sont dans le livre et qui ont écrit les livres auxquels je m'intéresse sont des gens qui ont eu cette expérience, qui d'ailleurs n'est pas une expérience ça arrive ou ça n'arrive pas. C'est du domaine de la grâce. Il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent et qui n'ont pas trouvé, il y en a qui n'ont pas cherché et à qui c'est arrivé. Voilà.
Est-ce que c'est un travail sur l'être dans la nature ou l'être et la nature ?
On ne peut pas séparer l'être de la nature. Et c'est bien le problème du monde actuel, d'ailleurs. C'est que...
Je reviens par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense donc je suis, où la philosophie occidentale, vous disiez, était plutôt axée sur la pensée intérieure. Mais on oublie la nature qui nous entoure aussi, non ? Dans ce cas-là.
Bah, la nature ne pense pas. Hein. Je veux dire, il y avait une émission hier soir sur la 2, là, sur les arbres. En fait, les arbres ont une intelligence, ils se nourrissent eux-mêmes. Et bon, pendant longtemps, on a cru que les arbres, c'était bon à couper, simplement, à faire du bois, quoi. Alors que tout être est sacré. Tout être vivant est sacré. Et malheureusement, l'homme a cette intelligence. D'ailleurs, le maître que j'ai rencontré, Ramesh Balsekar en premier, parlait de du dubious gift of intellect, c'est-à-dire il parlait du cadeau de l'intellect comme d'un cadeau peut-être empoisonné quelque part, parce que il a fait croire à l'homme qu'il était supérieur aux autres êtres vivants, et ce qui l'a amené à ce qui se passe actuellement. J'ai pas besoin d'en parler, quoi, toutes les catastrophes écologiques, etc., quoi.
Eh bien, Dominika, je vous remercie. Hein. Nous allons terminer cette interview.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ouais. Si. Bon. Et donc, voilà, exposition donc, déjà précédemment dite. Et vous avez de quoi vous contacter donc, en étant sur le site qui s'appelle Dominika. Avec un H à la fin, .free.fr.
Et vous pouvez dire aussi que je serai à la galerie sur tous les après-midi, sauf le lundi après-midi. Et que le matin, c'est ouvert aussi, mais ce n'est pas moi qui fais le...
Vous serez présente les jours de marché, par exemple.
Oui, mais plutôt l'après-midi. Ce n'est pas sûr que j'y sois le matin. Voilà.
Très bien. Eh bien, Dominika, merci en tout cas.
Et... Mais vous pouvez passer, hein, ou prendre rendez-vous, bien sûr. Même les jours de marché. Hein,
oui.
N'hésitez pas.
Bah, je passe quasiment tous les jours devant. La photographie, encore une question. Vous la pratiquez vous-même, c'est-à-dire que vous développez vous-même vos films et faites vous-même les tirages.
J'ai jamais vraiment réussi à bien développer mes films, et c'est quand même essentiel. Donc mes films, je les ai toujours fait développer dans un labo. à New York. Ensuite, ça a été à Bombay. D'ailleurs, il y avait un très bel labo qui me faisait mes tirages de films à Bombay. Et puis aussi à Paris. Sinon, mes photos, je les ai développées longtemps. J'avais installé un labo photo dans mon appartement à New York. Et puis ensuite, je louais des labos à Paris. Et ensuite, il y avait un labo pendant 2-3 ans à Cray quand je me suis installée et je développais encore mes photos là-bas. Et ça a été la dernière fois que je les ai développées. J'ai plus fait de développement après parce qu'en plus, j'ai un problème avec le produit chimique, une sensibilité. Donc maintenant, il faut que j'envoie mes films à Paris et que les tirages sont faits là-bas. Mais comme j'ai beaucoup fait de tirages, je suis à même de dire si le tirage est bon ou s'il faut le refaire, etc. Voilà.
Leica produit lui-même des appareils numériques aujourd'hui, non ?
Oui.
Et vous cherchez pas à vous adapter à la technologie d'aujourd'hui ?
J'ai du mal à m'adapter. D'ailleurs, j'en avais acheté un Leica numérique, et puis je me suis aperçu que je l'utilisais pas assez, donc du coup je l'ai revendu. Je fais plus trop de photos maintenant. Je peux le faire sur commande, mais de moi-même, je dois dire que je suis de plus en plus aspiré justement par le silence et par l'assise.
Eh bien, Dominika, merci et bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.